Ils sont auteurs et autrices de livres jeunesse, confinés comme tout le monde, comme vous, comme moi, et ils ont décidé d'unir leurs talents pour vous offrir chaque jour une histoire. De l'aventure, du policier, de la tendresse et de l'amour. Albin Michel Jeunesse ouvre, en partenariat avec RTL, pour vous les enfants, sa grande bibliothèque. Je suis Laurent Marsic, chroniqueur jeunesse dans Laissez-vous tenter, et dans cet épisode, je vous propose d'écouter une histoire policière au pays des fourmis, La reine des fourmis a disparu. Lue par son auteur, Fred Bernard, récompensé par de multiples prix. Lecture pour les 8-10 ans, en librairie, ce livre est illustré par François Roca.
On a enlevé notre reine, on a enlevé notre reine. Ce cri résonne dans ma tête, comme dans celle de milliers de fourmis. Et il me semble qu'il hante encore les galeries de la fourmilière. Notre reine, notre mère à tous, a disparu dans l'épaisse forêt tropicale qui nous entoure. Autant chercher une aiguille dans une meule de foin, dira-t-on. Et c'est moi, mandibule de savon, qui suis chargé de l'enquête. Je suis à la fois détective et représentant de la loi de la jungle au sein de la tribu des fourmis rouges. Ma mission, mettre la patte sur celui ou celle qui a enlevé notre très chère reine pendant la nuit. Pour me seconder dans mes recherches, on m'a confié un jeune assistant, Élie Tredelet. Moi, je l'appelle Élie, tout court. Pour le moment, le mystère reste entier. Heureusement, un indice m'a déjà mis la puce à l'oreille. Il s'agit d'un poil. Un poil perdu par l'agresseur, sans nul doute. Je l'ai découvert dans la chambre de la reine, parmi les débris du plafond. À qui peut bien appartenir ce fameux poil ? Mon acolyte a pensé immédiatement aux Indiens qui viennent chasser parfois alentour. Certes, ils se nourrissent de grosses larves blanches et autres insectes, mais ils ont des cheveux noirs et raides et n'ont jamais eu un poil au menton. Élie a encore beaucoup à apprendre, se dit entre nous. C'est pour cette raison qu'il est mon assistant. Dans un premier temps, je décide d'aller voir Socrate, le gros singe, et sa bande qui logent au-dessus de notre camp. Ce vieux sage, un peu fou, a bien toutes sortes de poils sur le dos, les mains, les fesses et le nez, mais aucun d'entre eux ne ressemble à notre poil. Mon assistant l'interroge, mais Socrate n'a rien remarqué cette nuit-là. Il a dormi comme un loir, ce qui n'a rien d'étonnant pour un vieux singe de son espèce. Notre enquête s'annonce plus compliquée que prévu. Nous allons devoir élargir notre périmètre d'investigation. Élie et moi allons donc au bar des pucerons pour poser quelques questions. Toutes les fourmis rouges qui s'y trouvent sont persuadées que ce sont les fourmis noires qui ont fait le coup. Merci les gars, ce serait un peu trop simple. Ces fourmis-là ne voient pas plus loin que le bout de leurs antennes et puis on ne leur connaît pas d'autre poil que celui qu'elles ont dans la patte. Après un petit verre, pour nous donner du courage, nous allons rendre visite un peu à reculons à notre ennemi juré, Édouard le Tamanoir. L'entrevue est courte, car sa langue est longue. Nous avons juste le temps de nous esquiver et de conclure que ses poils n'ont vraiment rien à voir avec le nôtre. Sur la route qui nous mène chez les rats, nous croisons la panthère noire qui, comme son nom l'indique, n'a aucun poil de couleur claire. Ça ne peut donc être elle. Elle passe son chemin sans même nous adresser le regard chavirant dont elle a le secret et ignore souverainement les questions d'Élie. Voilà certainement l'animal le plus fier de la forêt. Élie m'apprend que les plus grandes familles de puces se battent pour vivre sur son dos. Seules les puces de luxe ont le privilège de loger dans son soyeux pelage noir. Les autres se contentent qui d'un cochon, qui d'un rat, et finalement se retrouvent dans le ventre de la panthère. Nous arrivons justement à l'entrée des galeries des rats. Un boa splendide s'en échappe. Nous restons un moment émerveillés par les magnifiques dessins que forment ces écailles. Tout le monde sait que les serpents n'ont pas de poils. Mais Élie m'affirme qu'une légende indienne parle d'un serpent à plumes. Il m'énerve quand il étale sa science. Nous attendons que son long corps ait fini de défiler devant nous pour nous introduire dans le souterrain. Le terrier est vide. Le boa vient de dévorer toute la famille des rats et les poils qui gisent sur le sol sont beaucoup plus courts que les nôtres. Vient ensuite le tour d'Émir le tapir, qui vit près de la rivière. Mais ses poils creux qui l'aident à flotter dans l'eau sont énormes à côté de notre poil. J'en profite quand même pour interroger une de ses puces, elle s'y connaît sans poils, mais celle-ci n'a jamais vu un poil pareil. Mon assistant me fait remarquer qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Il m'agace. Je pense alors aux bébés jaguars qui vivent dans les arbres de l'autre côté de la rivière. Ils ont des petits poils clairs. Nous sautons sur une feuille qui passe au fil de l'eau et nous accostons sur l'autre rive. Les bébés jaguars sont là, qui barbotent entre les racines des grands arbres, sous l'œil vigilant de leur mère. Mais ce ne sont pas encore les bons poils, trop brillants, trop soyeux. Nous rentrons bredouilles et déçus au camp, et passons la soirée au bar des pucerons. Mon assistant me rappelle que nous ne pouvons pas vivre longtemps sans notre reine mère. Déjà, le manque de naissance se fait sentir, car elle pond quelques 142 857 œufs par jour. Les fourmis noires pourraient en profiter pour nous attaquer. Il a raison, le petit imbécile. Qu'est-ce qui lui prend de raisonner si bien? Après quelques gouttes d'alcool de puceron, je réalise que c'est moi l'imbécile, et le gros. Nous sommes en train de passer en revue tous les mammifères, alors que je connais des insectes qui ont eux aussi des poils. Apollon, le grand papillon de nuit, a plein de poils, et ses enfants, les chenilles, en sont couvertes. La nuit est tombée depuis un moment. Il n'y a pas un instant à perdre. Apollon est là qui tournoie devant la lune. Nous grimpons au sommet du plus grand arbre et lui demandons d'approcher. Les grands yeux dessinés sur les ailes m'impressionnent, mais je fais mine de rien. Étonné par notre demande, mais fier de sa véritable fourrure, si rare chez les insectes, il consent à nous montrer ses poils. Encore raté. Ils sont bien plus fins et légers que le nôtre. Je demande à voir ses chenilles, mais le grand papillon me prévient que leurs poils sont très urticants. Alors, le nôtre ne gratte ni ne pique. Apollon et ses enfants sont bien innocents. Ils demandent à tout hasard si nous avons rendu visite à Ursule la tarentule. La tarentule, la plus grande araignée de la forêt, la plus poilue et la plus dangereuse aussi. Je l'avais oubliée, celle-là. Chemin faisant, Élie avoue qu'il avait pensé à la tarentule depuis le début, mais qu'il n'avait pas tellement envie de la voir de près. Je ne réponds rien, ce n'est pas le moment de craquer. Ursule la tarentule loge sous une vieille souche couverte de ses toiles d'araignée. Mon fidèle assistant prétexte de garder l'entrée pendant que je m'avance dans l'antre, en évitant soigneusement les fils collants. 8 yeux brillent dans l'ombre et m'interrogent. Je m'explique. Plus inconscient que courageux, je demande à Ursule de voir les poils qui couvrent son énorme abdomen. Ursule se révèle sage et compréhensive. Elle est triste, car elle n'a pas revu son mari depuis 2 jours. Il a disparu lui aussi. Dépité, je rejoins Élie qui m'attend tout tremblant. Il est fier de moi, comme si je n'avais peur de rien. En fait, je réalise que ma mission est un échec. Je vais m'asseoir sur la corolle d'une orchidée et regarde machinalement la colonne des ouvrières. Élie me rejoint. Les fourmis travaillent inlassablement sans se poser de questions. Elles accumulent des milliers de vivres dans les réserves et des brindilles pour la construction de la fourmilière. Tout à coup, je remarque que certaines d'entre elles transportent d'étranges choses. Je m'élance et cours le long de la colonne, remontant le courant des ouvrières qui traînent de petits objets inconnus. Élie me suit avec le poil. Mon 6e sens, qui jusqu'ici m'avait laissé tomber, m'indique que je suis sur la bonne voie. Tout à coup, je débouche sur une immense rivière de terre rouge, dont la surface est couverte de marques bizarres. Les ouvrières viennent d'ici. Tout autour, c'est la désolation. Je n'avais jamais vu une chose pareille. Que s'est-il passé? Qui a saccagé la forêt? Mon assistant me fait signe. Il vient de trouver un poil identique au nôtre. Nous voilà avec 2 poils sur les pattes, le long d'une cicatrice de terre qui fit la perte de vue dans la forêt. Et toujours pas de solution concrète à notre problème. Cette affaire me dépasse. À mon avis, le conseil des sages devrait se réunir pour choisir une nouvelle reine au plus vite. Parmi les jeunes princesses, quelque chose est passé par ici et a emporté notre reine mère. Quelque chose de terrible, de bien plus dangereux que les fourmis noires, la tarentule et le tamanoir réunis. C'est mon 6e sens qui me le dit. Mon assistant me demande ce que nous allons faire maintenant. Il nous faut réfléchir. Tout à coup, un vol de perroquets multicolores décolle de la lisière de la forêt saccagée en même temps qu'une idée brillante traverse mon esprit. D'instinct, je sais qu'il nous faut remonter la cicatrice de terre par la gauche. Nous marchons des heures dans ce qui nous semble être l'empreinte d'un gigantesque serpent aux écailles saillantes. Le soleil tape dur dans ce désert de terre pour des fourmis habituées à vivre dans l'ombrage et l'humidité de la forêt vierge. Je conseille à Élie de se munir d'une feuille d'arbre et de la porter à la manière d'une ouvrière afin de nous protéger des rayons brûlants. Une nuit d'encre vient remplacer rapidement la lumière vive de la journée lorsque des ombres inquiétantes nous foncent au pénet. Un frisson glacé nous traverse à la vue de ces énormes bêtes, de ces insectes immenses qui se dressent vers les étoiles, immobiles, comme hypnotisés ou bien morts. Ils ont des mâchoires et des dents effrayantes, des pattes bizarres, une petite tête au bout d'un long cou levée vers le ciel à la façon d'une menthe religieuse. Nous nous approchons, enfin je m'approche, car Ellie reste cachée sous sa feuille pétrifiée sur place. La carapace des monstres est extrêmement dure et froide. Ces gros insectes sont bien morts. À moins que ce ne soit leur chrysalide, ou leur mue, abandonnée, et qu'ils soient partis sous d'autres cieux, à la façon des papillons, des libellules ou des cigales. Je fais signe à mon froussard d'assistant de me suivre. Une petite lumière brille près d'ici. Nous nous faufilons vers elle, entre les monstres menaçants. Elle provient d'une petite cabane faite de la même matière que les monstres. Je sens soudain l'odeur d'un chien, un gros chien jaune qui dort devant la cabane. Nous nous glissons dans son épaisse fourrure, bien décidés à passer le reste de la nuit au chaud. Il y a là quantité de puces, tellement gavées et repues qu'elles sont incapables de répondre à nos questions.
Fin de la première partie, la suite au prochain épisode. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les podcasts RTL sur rtl.fr et vos plateformes favorites.